Alors, je suis conscient que l'enseignement que nous donnons peut paraître un peu élevé. J'espère qu'il ne paraît pas trop abstrait, mais il y a des choses qu'on ne perçoit que progressivement. Je dirais qu'un intérêt de ce parcours est de permettre d'ouvrir des perspectives. Il y a un moment où on entreaperçoit qu'il y a quelque chose que l'on pourrait voir, puis il y a un moment où on le voit vraiment, et notamment par rapport à cette question de cet esprit de possession et de domination qui peut contaminer l'amour humain, qui de fait le contamine de son péché originel. Je pense que c'est important d'être conscient que c'est par couche qu'on en prend conscience. Et il y a un moment où Dieu nous le donne de le voir avec les yeux du cœur et d'en comprendre, de comprendre en même temps la nécessité d'une purification plus profonde. Ça ne veut pas dire pour autant que l'amour humain soit entièrement perverti. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'espère que vous ne l'avez pas compris ainsi. Nous allons essayer de voir maintenant la manière dont nous pouvons nous laisser conduire par le Christ sur le chemin de la purification et de la guérison de l'amour humain. En étant conscient donc que les choses se font par étapes successives. La première chose que je voudrais souligner, c'est la raison pour laquelle Jésus a ce pouvoir de nous libérer de notre égocentrisme, disons, foncier, et nous donner la grâce de nous ouvrir vraiment à Dieu et aux autres. C'est parce qu'il est allé jusqu'au bout de l'abandon de lui-même sur la croix, et que dans sa passion, il a assumé tous ses repliements sur nous-mêmes. Je dirais qu'il est descendu dans nos petits enfers intérieurs, c'est-à-dire nos enfermements, pour nous donner la capacité de sortir de cet enfermement comme un homme qui, je dirais, nous sommes comme d'un homme qui serait tombé au fond d'un puits et qui ne saurait plus en sortir. Mais Jésus, il est descendu au fond du puits pour nous. Et quand il a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il a ressenti toute la souffrance que nous pouvons ressentir quand nous nous sentons aussi incapables d'aimer, d'un amour pur. Il a réparé toutes nos désobéissances et nos révoltes et nos esprits d'indépendance en se remettant totalement entre les mains de son Père quand il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Ainsi, comme dit saint Paul, « Comme par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. » Nous essayons de comprendre cette justification que Jésus opère. La première manière d'avancer sur ce chemin, c'est précisément de reconnaître que par nous-mêmes, nous ne serons jamais capables d'aimer d'un amour désintéressé, vraiment désintéressé. Et donc, la première conversion que nous avons à vivre, c'est d'accepter de dépendre de Jésus sur ce chemin, d'invoquer son nom. Je repensais, en préparant cet enseignement, à la prière traditionnelle « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de nous pécheurs. » C'est progressivement qu'on prend conscience de la nécessité d'être vraiment sauvé et que l'on renonce à se sauver par soi-même. Je dirais ici qu'il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de chemin tout fait. Si vous lisez un livre sur la sainteté qui vous explique le chemin étape par étape, eh bien, ne vous emballez pas trop, parce qu'il y a autant de chemins que de personnes. C'est un chemin donc qui commence par la prise de conscience, d'avoir à crier vers Jésus. Pensez à tous ces malades qui criaient vers Jésus en disant « aie pitié de moi, hein, si tu le veux Seigneur, tu peux me purifier ». Et gardons cette attitude d'humilité première, la première forme d'humilité qui est de reconnaître le besoin d'un sauveur. Pour mieux comprendre le chemin que Jésus nous ouvre, je vous propose de relire, de revoir le récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Cette femme qui avait eu 5 maris et qui vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Qu'est-ce que lui dit Jésus ? Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui en aurais demandé. Jésus ne dit pas simplement « si tu savais le don de Dieu », mais « si tu savais celui qui te dit « donne-moi à boire ». Si l'on pouvait connaître vraiment qui est Jésus dans sa vie d'amour, contempler Jésus, de contempler Jésus dans sa vie filiale. Jésus tout entier tourné vers le Père. Jésus pure réceptivité par rapport au Père. Jésus qui vit par le Père, qui n'a pas d'autre vie que cette relation d'amour avec son Père. Et Jésus qui est venu vivre cette relation d'amour avec son Père, cette éternelle relation d'amour filiale dans laquelle il se reçoit à chaque instant tout entier de son Père, Jésus qui a voulu vivre cette relation dans un cœur d'homme. Et parce que Jésus a vécu cette relation filiale dans un cœur d'homme, il nous a ouvert le chemin de l'adoration. De l'adoration en esprit et en vérité, comme le dit Jésus à la Samaritaine, en lui disant que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Au fond, quand Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, c'est-à-dire si tu savais la possibilité d'un amour nouveau, toi qui as eu 5 maris et qui vis avec un homme qui n'est pas le tien, et qu'ensuite il lui parle de l'adoration en esprit et en vérité, bien, il lui montre le chemin. Autrement dit, ce que nous voudrions comprendre aujourd'hui, c'est la manière dont l'amour humain est purifié par l'adoration. Adorer Dieu, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie rentrer dans cette vie filiale qui est dans le cœur de Jésus et reconnaître et aimer, dépendre du Père dans sa sollicitude, comme dit le catéchisme, concrète et immédiate. Ici, je me permets de citer le catéchisme de manière un peu plus longue, qui dit que la sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. C'est peut-être ici qu'il y a un point faible dans notre vie, c'est que nous avons de plus en plus du mal à reconnaître cette souveraineté de Dieu par rapport aux événements de notre vie. Nous vivons dans un monde qui fait abstraction de Dieu. Et pour beaucoup de chrétiens, cet acte de foi en la providence divine, qui donc prend soin de tout, jusque dans les plus petites choses, par rapport à notre vie est devenu le lieu d'un combat, parce qu'on a du mal soit à reconnaître que Dieu s'intéresse à nous jusque dans les plus petits détails, soit à penser qu'il ait vraiment ce pouvoir de tout tenir dans sa main. Il y a une image qui peut nous aider, c'est que Dieu est comme une mère. Non seulement il nous donne la vie, mais il nous garde comme une mère garde son enfant contre elle. Il nous garde continuellement sur son cœur de père. Et donc la création, ce n'est pas simplement un acte ponctuel, mais il y a comme une création continuelle, en même temps que Dieu exerce il nous conduit dans sa providence jusqu'à l'achèvement de notre destinée éternelle. Nous laisser engendrer par l'amour du Père, ça signifie boire de l'eau, l'eau de cet amour. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. L'eau qu'on reçoit, c'est-à-dire nous laisser aimer par le Père, comme des petits-enfants, rentrer dans cette adoration, cet accueil de cet amour créateur et sauveur, de cet amour qui guide nos vies, signifie devenir soi-même source, c'est-à-dire que on revient à une affirmation toute simple, c'est qu'en se laissant aimer par Dieu, on devient capable d'aimer les autres. On devient soi-même source d'un amour nouveau. En fait, il n'y a pas tellement, de choix où on se tourne vers Dieu dans cet esprit d'adoration, ou fondamentalement on reste tourné vers soi, malgré les grands désirs qu'on peut avoir d'aimer les autres, de donner sa vie pour les autres. En réalité, il n'y a pas d'autre chemin de sortie de soi-même que celui de cette adoration du Père en esprit et en vérité. C'est pour ça que Jésus peut dire « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Si vous ne vous convertissez pas en adorant Dieu dans votre cœur, en suivant Jésus sur ce chemin de l'adoration, si vous n'acceptez pas de devenir dépendant de cet amour du Père comme des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de l'amour. Nous avons une vie pour vivre ce chemin-là. Et je reviens sur cette pensée, c'est que ça peut nous paraître très loin de notre vie quotidienne, cette vie d'amour filial avec notre Père du Ciel. Mais pensez que pour l'éternité, nous vivrons de cette vie-là, puisque pour l'éternité, nous vivrons avec le Fils, dans cette relation au Père, nous serons totalement pris dans ce mouvement, nous vivrons dans la Trinité pour l'éternité et nous serons, participerons pleinement à la vie filiale de Jésus. Et nous avons une vie sur terre pour nous exercer, pour entrer progressivement dans ce mouvement. Je dis que l'adoration est la seule chose qui puisse briser radicalement notre orgueil, en nous faisant prendre conscience que nous recevons tout de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Dit saint Paul. Adorer Dieu, c'est dans le respect et la soumission absolue reconnaître le néant de la créature qui n'est pas Dieu. Adorer Dieu, c'est comme Marie, dit le catéchisme dans le Magnificat, le louer, l'exalter et s'humilier soi-même. L'adoration du Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. Au fond, l'adoration de Dieu nous libère de toute forme de complaisance en nous-mêmes. J'ai envie de dire que nous ne pouvons plus nous regarder nous-mêmes et nous complaire en nous-mêmes, simplement parce que ça apparaît tellement dérisoire quand on prend conscience que tout vient de Dieu, que tout est don de son amour, et que nous ne pouvons d'aucune manière nous glorifier de ce qui nous a été donné dans cet amour gratuit. En fait, l'humilité dont nous avons besoin pour nous ouvrir aux autres, pour nous décentrer de nous-mêmes, elle nous est donnée dans la reconnaissance de la vérité. Comme disait sainte Thérèse d'Avila, l'humilité, c'est la vérité. Mais la vérité, c'est que tout vient de Dieu, que nous sommes dans sa main, et que nous n'avons en réalité aucun mérite propre. Seul mérite, j'ai envie de dire, que nous ayons, c'est de nous recevoir, d'accepter de dépendre de Dieu. Mérite de notre confiance. Et encore, cette foi elle-même, cette confiance en Dieu, est elle-même un don de Dieu.
C'est pas simplement, je dirais, une piété, mais quand je pose un acte d'adoration, c'est que vraiment je crois voilà, qu'il est mon père, que je dépends de lui. Et alors, donc, en me regardant en face, je me dis, est-ce que je le crois vraiment? Et en fait, je me suis aperçu que pendant longtemps, je ne posais pas vraiment cet acte-là en vérité. Et j'ai découvert ça, et j'ai découvert que, en retour, le fait de peu à peu rentrer dans cette vérité me faisait voir concrètement que le Seigneur intervenait dans les tas de choses de ma vie quand je me posais ces actes-là.
Moi, je dois confesser que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que Jésus nous conduisait au Père. Quand j'étais séminariste et même jeune prêtre, je vivais pratiquement uniquement devant Jésus. Je connaissais le mystère de la Trinité avec ma tête, mais cette pensée qu'en fait la vraie liberté, la vraie vie, c'est quand on retrouve ce cœur d'enfant, j'étais loin d'en avoir une vraie conscience. Jean-Paul II a eu cette expression une fois, il a dit, il ne faut pas s'arrêter à Jésus. Pas s'arrêter à Jésus, Jésus est là pour nous faire rentrer dans cette vie filiale et qui est en même temps une vie d'adoration. Personnellement, il m'est arrivé, après une retraite, de vivre pendant, ça n'est duré que 24 heures, mais de vivre pendant 24 heures dans un état d'enfant, où je me sentais vraiment aimé, j'ai envie de dire pour la première fois de ma vie, vraiment aimé totalement, et complètement enveloppé par cet amour du Père. Et ça m'a fait une impression à la fois de quelque chose qui me ramenait à moi-même, qui était plus que naturel, j'ai envie de dire, l'impression d'être enfin totalement moi-même, et en même temps quelque chose qui n'était pas de ce monde, c'est-à-dire de vivre en enfant de Dieu depuis le péché originel, c'est quelque chose qui est devenu impossible, qui n'est pas dans l'air que nous respirons. Quand on l'exprime, quand on l'expérimente une fois fortement, on se rend compte qu'en réalité, la vraie vie, elle n'est pas celle qu'on pense. La vraie vie, c'est de vivre pleinement cette dépendance à l'amour de notre Dieu. Le catéchisme dit, j'aime bien l'expression, il dit que la reconnaissance, cet esprit reconnaître cette dépendance complète par rapport à notre Créateur est une source de sagesse et de liberté, de joie et de confiance. Le fait de prendre conscience que c'est dans cette acceptation de notre dépendance totale à notre Père du Ciel, comme des tout-petits, que nous trouvons la vraie liberté, la vraie joie, et que nous sommes rendus à nous-mêmes. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé ce cœur d'enfant, on n'aura pas retrouvé notre cœur. Et on n'aura pas non plus retrouvé le chemin d'un amour pur. Je suis conscient que c'est difficile à accueillir comme ça, mais en fait c'est tout l'Évangile qui nous le dit, hein. Déjà de l'accueillir dans la foi et de comprendre que ce chemin qui nous fait redevenir comme des tout-petits, c'est un chemin donc, que Jésus trace lui-même dans notre cœur et dans notre vie. Et donc, ce qu'il attend, encore une fois, c'est que nous laissions conduire par lui. Ce que nous essayons de faire dans ce parcours, de laisser sauver l'amour entre l'homme et la femme en remettant Dieu à sa place dans notre cœur et dans notre vie. Je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur. Connaissez cette prière du Père de Foucault, parce que je vous aime, que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Un besoin d'amour de me remettre entre vos mains, parce que notre cœur a été créé comme un cœur d'enfant. il y a un besoin d'adorer Dieu qui est inscrit en nous. Depuis le péché originel, l'homme a peur de Dieu, a peur de se remettre totalement à Dieu. Mais en même temps, il y a un reste, un besoin. Ce besoin est tellement fort en nous que quand nous n'adorons pas Dieu, nous tombons dans d'autres formes d'adoration qui sont fausses, évidemment, hein, puisque seul Dieu mérite d'être adoré, et nous tombons donc dans des formes d'idolâtrie. Alors, essayons de comprendre plus précisément comment cette adoration de Dieu nous purifie. Je ne fais rien de moi-même, dit Jésus. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. C'est un cœur d'enfant qui parle. Jésus a gardé ce cœur d'enfant, et l'enfant, il ne cherche pas à être quelque chose. Il ne poursuit pas un idéal, il ne cherche même pas à aimer. Reprend en parler, il cherche simplement à plaire à son père. Je fais toujours ce qui lui plaît. Il cherche à plaire à son père parce qu'il veut rester avec son père. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. En laissant l'amour du père être ce qui me fait vivre, en me recevant de lui, prenant conscience que je ne peux vivre que de lui, même si je passe mon temps à vivre, à essayer de vivre de moi-même, en prenant conscience donc de cette dépendance à l'amour du Père, eh bien, nous nous mettons à désirer accomplir sa volonté. Mais voyez, pas accomplir la volonté de Dieu simplement parce que nous savons qu'en dehors de cette volonté, on fait fausse route. Mais accomplir la volonté de Dieu parce qu'on l'aime. C'est ça, pour lui-même. Pas simplement parce que les commandements de Dieu savaient être les meilleurs, mais simplement parce qu'on veut faire plaisir à Dieu. Autrement dit, je parle ici d'une obéissance filiale aimante. Et donc, nous commençons à mettre notre vie au service de Dieu. Au service de l'accomplissement de son dessein. Et nous trouvons progressivement notre joie dans ce service, comme des tout-petits, parce que dans ce service, nous trouvons l'intimité avec notre Père du Ciel. Ne vous inquiétez pas, si vous ne vivez pas cette joie, ça va venir. Mais il y a une joie à obéir dans cet esprit-là, pour plaire simplement, en mettant progressivement notre cœur dans cette relation d'amour avec Dieu. À ce moment-là, dans ma relation à l'autre, qu'est-ce qui change? Vouloir du bien à l'autre. Vouloir du bien à l'autre, ça devient quoi ici? Ça devient vouloir l'accomplissement du désir de Dieu sur l'autre. Ce n'est pas moi qui sais pour l'autre. Ce n'est pas moi qui le sauve. Ce n'est pas moi qui le guide. Ce n'est pas moi celui qui donne. Non, je suis un serviteur inutile, mais pas inutilisable. Et je laisse Dieu donc se servir de moi pour qu'il puisse lui-même accomplir son œuvre de salut. Et donc ici, nous pouvons commencer progressivement, vous voyez, à aimer l'autre, à donner à l'autre, je veux dire, sans nous mettre au-dessus de l'autre, sans dominer. Nous ne pouvons plus modeler l'autre selon nos vues. Mais nous désirons pour lui ce que Dieu désire. Nous ne cherchons pas à lier l'autre à nous-mêmes, à le rendre dépendant de nous-mêmes. Mais nous laissons le Seigneur le combler lui-même Ici, je pense à Jean-Baptiste. Hein. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Sauveur. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Vous faites un test, vous vous demandez ce que je peux dire dans mon cœur. Il faut que Dieu grandisse dans le cœur de mon conjoint et que moi je diminue.
C'est vraiment un chemin de libération, d'ajustement, qui donne beaucoup de joie et de bonheur dans le couple. C'est vrai ou pas ?
Oui, même si c'est passé par des moments de résistance. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait, juste.
Il y a des souffrances aussi qu'on lâche. Par exemple, l'époque, je disais encore il y a pas longtemps même à lui que je n'étais pas prête encore à lâcher certaines choses, et puis finalement je m'aperçois ces jours-ci que je l'entrevois de lâcher. Mais pendant des années, je souffrais énormément de l'emprise du travail. Je disais que mon mari avait une détresse, c'était son boulot. Et en fait, je souffrais beaucoup quand il rentrait tard le soir, etc. Et je sentais que le Seigneur me parlait à travers ça, mais je ne voulais pas de l'entendre. Parce que quelque part, il fallait, j'avais un peu idolâtré mon cher époux, et il fallait que je lâche ça. C'est vrai. Et il fallait que je lâche ça, et en fait, l'occasion de son travail, pour moi, était l'occasion, enfin, le fait qu'il était accaparé par son travail, pouvait être l'occasion justement de faire des. Alors je l'offre au Seigneur comme ça rapidement en lui disant tu me l'enlèveras. Alors, je lui disais Seigneur je te l'offre, il rentre tard, d'accord, mais à toutes les occasions je disais à Philippe mais quand même ras-le-bol quoi. Et ces jours-ci, je me disais même à reculons parce que maintenant il est plus, beaucoup plus disponible puisque son métier le permet. Et à reculons je me disais si ça revenait comme avant, est-ce que je serais capable de m'offrir ? Et je me disais ah, ben non, quand je veux pas, je râle intérieurement. En disant non, non, je n'accepterai toujours pas. Et pourtant, en ayant lâché un peu le contrôle sur mon mari sur certaines choses, maintenant je peux le dire. Aujourd'hui je peux le dire, oui, si ça revenait, je le vivrais plus de la même façon que je le vivais à cette époque-là. Mais je vois très bien qu'il y avait un contrôle aussi de ma part là-dedans, et que cette occasion-là, non pas que ce soit forcément bien que les maris rentrent, mais cette occasion-là, pour moi, était un chemin de purification. Je le vois bien maintenant, et sur le coup, j'ai râlé. Hein.
Cet amour qui donne et qui peut être tellement facilement contaminé par une certaine forme d'orgueil, évidemment, en tant que prêtre, c'est la tentation la plus évidente. Ce que je remarque, d'abord, c'est que quand j'étais jeune prêtre, j'ai dû être beaucoup aidé par une personne. Parce que je n'arrivais pas, quand j'étais aumônier d'hôpital, il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à gérer. Et la personne qui m'a aidé pendant des années, qui m'a conseillé, elle l'a fait vraiment parce qu'elle a senti l'appel de Dieu. Et justement, dans cette pureté, sans chercher à me rendre dépendant d'elle. Et bien, le résultat, c'est la personne pour laquelle j'ai le plus grand amour, parce que elle m'a aimé d'un amour pur, et l'amour pur appelle l'amour pur. Ce que je veux dire, c'est que l'autre ressent cette pureté de l'amour. Quand on ne cherche pas à gagner son cœur, en fait, il est touché. Il est touché par autre chose que nos tentatives de le lier à nous. Il est touché par l'amour lui-même, qui à ce moment-là est vécu donc comme un effacement de soi. En fait, Dieu élève les humbles, et donc il nous élève aux yeux des autres aussi quand nous avançons sur ce chemin d'humilité qui consiste à désirer que Dieu soit Dieu dans le cœur des autres, que nous ne prenions pas cette place. J'ai envie de dire que l'amour véritable se reconnaît par le parfum qu'il répand. Parfum de la pureté, de cet amour nouveau que Jésus est venu répandre dans nos cœurs. À ce moment-là, on peut s'aimer l'un l'autre librement, sans dépendance aliénante. D'une manière semblable par rapport à l'esprit de possession. Je peux accueillir l'aide que l'autre m'apporte sans mettre ma confiance en l'humain, sans chercher à me sécuriser en l'autre, sans tomber dans une forme d'idolâtrie, tout en reconnaissant que j'ai besoin de lui. En fait, c'est de Dieu que je le reçois. Les autres m'apparaissent pour ce qu'ils sont, des instruments, des médiations dont Dieu se sert, mais en définitive, c'est à Dieu que je rends grâce. C'est vers Dieu que je me tourne comme la source de tous ces biens. Et donc j'évite non seulement d'attacher les autres à moi, mais de m'attacher moi-même à l'autre d'une manière qui ne serait pas juste. Amen, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ, à cause de moi, à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent au centuple, dès maintenant, au temps présent. En même temps que l'adoration nous détache de l'autre, finalement, pour nous attacher uniquement à Dieu, dans le sens où Jésus nous demande ce renoncement à tout esprit de possession, eh bien, les choses nous sont redonnées au centuple, parce qu'on se retrouve à ce moment-là, unis en Dieu, dans la pureté de cet amour, qui fait que, sans chercher à nous attacher les uns aux autres, nous nous retrouvons unis par notre foi et notre amour commun unis dans l'adoration de Dieu, j'ai envie de dire. Qu'au fond, c'est l'adoration commune de Dieu qui nous permet de nous retrouver et de vivre cette véritable communion des cœurs. C'est en aimant Dieu par-dessus tout, c'est l'adoration. En mettant notre cœur tout notre cœur dans cette relation d'amour avec Dieu, eh bien, progressivement, devenir capable d'aimer comme Dieu aime. Quand Dieu dit « moi, je l'aime », ça veut dire aussi « toi, tu ne l'aimes pas comme moi, je l'aime ». Et donc, passe de ton amour humain qui n'est pas aussi pur que tu ne le penses à mon amour divin. Mais pour passer de l'amour humain à un amour qui est contaminé par le péché originel à l'amour divin, eh bien, il ne suffit pas de dire à Dieu « donne-moi cet amour, donne-moi cet amour », mais il faut aimer Dieu. C'est peut-être ça qu'on a oublié, c'est-à-dire que Dieu, il demande à être aimé pour lui-même. C'est en aimant Dieu pour lui-même et par-dessus tout qu'on peut arriver à aimer comme Dieu aime. Ce n'est pas simplement en vivant Dieu comme un réservoir à amour supplémentaire, en cas de naufrage. Aussi, peut-être que dans l'esprit de beaucoup, la vie chrétienne, au fond, on dit « aimer Dieu, comment j'aime Dieu ?» Ben, j'aime Dieu en aimant mon prochain, puisque c'est comme ça que concrètement on peut aimer Dieu. Non, non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'adoration elle-même comme acte intérieur, comme vie, comme j'allais dire, fond de notre vie, qui fait que, de fait, on se resitue devant Dieu, et quelque part devant Dieu seul, comme étant l'unique Dieu, c'est-à-dire le seul qui puisse vraiment nous combler, et aussi celui pour lequel nous sommes faits. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier, le plus grand et le premier commandement. le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ici, au fond, on en revient à dire qu'il y a un ordre dans l'amour qu'on a peut-être un peu oublié. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'un seul commandement, il y en a deux. Le premier doit rester premier, et le second, second. Et on ne pourra pas aimer l'autre, j'allais dire en esprit, en vérité, tant qu'on n'aura pas accepté de passer par le chemin, j'ai envie de dire étroit et resserré, de cette adoration qui demande aussi un détachement de nous-mêmes et détachement par rapport aux créatures, comme on disait autrefois, qui fait qu'au fond, c'est en acceptant de lâcher notre amour humain, qu'on le sauve. Quelle est la première manière concrète de vivre ce primat de la relation à Dieu? Quel est le signe que Dieu est vraiment Dieu dans mon cœur? Écoutez saint Paul. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui s'est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme, et le voilà partagé. C'est pas la description du mariage tel que Dieu l'a voulu, mais c'est la description du mariage sous le régime du péché dont parle saint Paul ici en 1 Corinthiens 7, 32-33. Ce que saint Paul nous fait comprendre, c'est que au lieu de chercher d'abord à plaire à Dieu, on peut être tenté donc de chercher d'abord à plaire à son conjoint, de plaire à la créature, de vivre sous le regard de l'autre au lieu de vivre sous le regard de Dieu. Et au fond, c'est là que commence le chemin de l'adoration, et le chemin d'une, je dirais, d'un amour humain vécu vraiment en Dieu, c'est quand le souci, le désir de plaire à Dieu prévaut sur le souci de plaire aux autres. À ce moment-là, je n'aime pas l'autre pour être aimé de lui. Mais j'aime l'autre parce que Dieu l'aime, et je me coule dans ce désir de Dieu, je le vois comme Dieu le voit, progressivement je l'aime comme Dieu l'aime, je l'aime à ce moment-là pour lui-même, et c'est en l'aimant ainsi, c'est en cherchant à servir le dessein de Dieu sur lui, que sans chercher à lui plaire humainement, c'est en suivant ce chemin que je vais l'aimer d'un amour qui en fait va lui plaire. Autrement dit, ce que je voudrais vous dire ici, c'est que ce n'est pas en cherchant à plaire à l'autre qu'on lui plaît. C'est en cherchant à plaire à Dieu qu'on va trouver vraiment l'attitude juste et le geste juste dans la liberté du cœur. Ce n'est pas en se cherchant l'un l'autre que les époux se trouvent, mais c'est en cherchant Dieu l'un et l'autre. Ce n'est pas en se regardant l'un l'autre qu'ils arrivent à se voir, mais c'est en regardant vers Dieu. Ça, c'est des choses que l'on découvre progressivement, c'est qu'en réalité, tout passe par Dieu. Dieu est premier en tout, c'est en remettant Dieu au centre, progressivement, qu'on arrive à réaliser ce que l'amour humain désire, mais ne peut pas trouver tant qu'il ne se remet pas, tant qu'il ne s'intègre pas d'abord dans la relation à Dieu. Est-ce qu'il y a des couples qui peuvent confirmer ?
que pour en arriver là, moi, il m'a fallu faire l'expérience de mon impuissance à y arriver. C'est de plus en plus d'ailleurs, je découvre que quand j'accepte d'être impuissante dans un domaine, je laisse la place à Dieu, quoi. Parce que, en fait, on est éduqué tout le temps à prendre sa vie en main, etc. Je me suis beaucoup posé la question pour mes enfants en disant, je les éduque à prendre leur vie en main, etc. Puis avec Dieu, c'est l'inverse, il faut lâcher. Donc on est tiraillé, on se dit comment on va faire. Et en fait, c'est très libérateur devant le Seigneur de reconnaître, ben, je ne suis pas capable, je suis impuissante dans ce domaine. Et là, je peux entendre la voix du Père. J'ai commencé à vraiment entendre le Père et quand j'ai compris mon impuissance totale. Et ça me touche énormément de voir la relation de Jésus sur la croix au moment où il se sent même abandonné du Père. Il va jusque-là pour nous montrer quand même si c'est lui le chemin. Il faut... Moi, ça m'a libéré de voir ça comme ça, de dire, mais en fait, avant, je me disais, mais ça, je ne sais pas faire, je suis impuissante, donc je cherchais des solutions pour essayer de le faire. Maintenant, je me dis, non, c'est génial, c'est quand je ne peux plus, quand je suis impuissante, je sais que là, je vais pouvoir laisser enfin la place au Seigneur. Et dans le couple, c'est très, très clair pour moi. Je n'ai plus peur de dire à Philippe, ça, je ne suis pas capable. Avant, c'est pas possible. Maintenant, au contraire, je me dis, mais c'est génial. Je suis pas capable, il va pouvoir m'aider, puis on va pouvoir essayer ensemble. Et puis avant, je ne me permettais pas d'être capable. Donc, ça libère énormément. Je trouve que...
Alors, moi, je dois reconnaître que pendant longtemps, ça a pu être très théorique de dire, oui. Ah, merci de le Seigneur... ma femme, je veux l'aimer, etc. Parce que ça me paraissait un peu déconnecté, puis je disais, psychologiquement, il faut lui plaire, quand même, il y a bien des choses qu'on doit faire, quoi. Et au fond, dans ma tête, il y a une espèce de césure. Et en fait, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'en fait, la vie spirituelle éclaire le reste. Elle l'habite, voilà. Et donc, une fois que quelque part cette démarche-là est faite, la vie prend une autre tonalité, une autre couleur, une autre coloration. Et c'est là que je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur le en vérité. Si j'aime vraiment le Seigneur en vérité, je disais tout à l'heure, si je lis, je ne sais pas si vous connaissez le bouquin La lettre à Laurence de l'académicien, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est un bouquin superbe. Comment s'appelle-t-il ?
Jacques
Bourbon-Busset. Oui, Jacques Bourbon-Busset. Si vous lisez le bouquin, c'est un hymne d'amour qui est absolument extraordinaire. Et c'est beau. C'est beau. Incontestablement, c'est magnifique. Et en même temps, je me disais, est-ce que je suis capable d'avoir une relation avec les seigneurs, mais voilà, comme si c'était moi qui écrivais ce bouquin au Seigneur. Vous voyez ? Quand je suis en vérité, peut-être moi plus homme masculin, quand j'adore le Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans cette vérité-là ? Eh bien, moi, j'ai mis longtemps à m'apercevoir que je ne l'étais pas vraiment. Et que je lui disais des jolis romans qui étaient vraiment très bien écrits, très bien, etc., très bien formulés. Enfin, non, je priais formellement, c'était beau, mais je me rendais compte que ce n'était pas vraiment.
Et je
rajouterais,
je rajouterais aussi qu'il y a tout un chemin de vérité qui se fait dans notre relation avec Dieu qui permet aussi de faire la même vérité dans la relation en couple. Enfin, nous, on passe notre temps, tous les deux, à discuter sur l'aller-retour entre notre relation à Dieu, si vraiment le couple est à l'image de l'union du Christ et de l'Église, eh bien, on fait tout le temps l'aller-retour dans les difficultés que nous avons. Donc, en fait, en permanence, peut-être que oui, il va me demander, mais en permanence, nous, on fait la comparaison en se disant, si avec Dieu, je n'arrive pas à faire telle chose, avec lui, est-ce que j'y arrive ? Et puis, on fait tout le temps l'aller-retour comme ça, et on s'aperçoit que ça éclaire bien. Vous voyez, je trouve que beaucoup de choses que l'on vit dans le couple éclairent notre vie d'adoration et inversement. Parce que pour moi, l'adoration, c'est pas simplement le quart d'heure qu'on passe devant un sacrement, c'est l'état d'esprit toute la journée, quoi. Donc, dans notre vie, quoi, dans notre vie de couple, c'est pareil. Je me dis, on s'aime pas simplement les 3 heures qu'on passe ensemble par jour, mais tout le reste de la journée, quoi. Donc, en fait, voilà.
Non, mais Anne-Claire, c'est tout à fait juste. Hein. C'est-à-dire, il y a cette analogie entre la relation entre l'homme et la femme et la relation entre Dieu et chacun de nous.
Oui, je trouve que dans l'adoration, en fait, on doit s'ouvrir au tout autre. Parce que Dieu, il est vraiment tout autre. Quoi. Et dans notre couple aussi, notre mari, il est autre que nous. Il y a une ouverture du cœur dans l'adoration. Qui bénéficie après dans notre relation de couple.
Et on apprend à dépendre de Dieu, c'est-à-dire à l'adorer, en acceptant de dépendre de l'autre. Les choses ne s'opposent pas. Mais on reparlera de tout ça quand on parlera du mariage comme sacrement. Nous allons passer aux travaux pratiques.